Actu SF, les podcasts.
C'est une bonne raison pour l'inviter aux Imaginales. Sam G. Miller. Sam G. Miller, c'est une rencontre comme on en fait, c'est-à-dire les livres. Vous recevez un livre par son éditeur, vous l'ouvrez. Et puis c'est un coup de cœur. C'est un livre qui vous prend au trip, qui vous prend au cœur, qui vous passionne, que vous lâchez pas, et qui vous fait dire ça c'est génial. On a un jeune auteur qui vient des États-Unis, tant mieux, on va le garder longtemps, et il nous raconte des histoires comme on n'a pas l'habitude d'en lire. C'est-à-dire qu'il apporte quelque chose de nouveau dans son écriture, dans ses personnages et dans le contenu de ses livres. On en parlera avec lui. Troisième invité de cette table ronde, Katie Stewart, que vous allez voir pendant le festival, puisqu'elle est aussi une de nos nouvelles modératrices. Alors bienvenue à double titre, puisqu'elle est là à la fois comme autrice d'un très joli et très original recueil de nouvelles. Elle, je l'avais repéré déjà dans des revues de science-fiction, entre autres Galaxie, je salue, parce qu'elle y a fait des dossiers, il y a publié des nouvelles de qualité. C'est comme ça que je me suis aperçu qu'il y avait une voix nouvelle qui arrivait, qui était vraiment intéressante. Elle est là depuis un moment, mais elle était peut-être un peu trop discrète, donc maintenant la voilà. Et on va pouvoir la découvrir toutes ces années à venir. Et puis Charlotte Bousquet, qu'on ne présente plus, couverte de prix, coup de cœur autrefois du festival, et donc elle le reste évidemment, quand elle est coup de cœur, c'est pour la vie. Quelle belle déclaration du festival à ses auteurs et ses autrices. Donc voilà nos quatre intervenants, nos quatre participants. Et on va donc commencer par Sabrina Calvo avec Sous la colline, qui n'est pas son dernier roman, celui qui a pris les prix que j'ai cités. Elle en parlera dans d'autres tables rondes, mais aux Imaginales, on ne parle pas que des nouveautés. On parle des livres parce qu'ils continuent à exister. Et si vous les avez ratés à la sortie, on est là pour vous les faire découvrir ou redécouvrir. Petit extrait, parce que j'aime bien entrer directement dans le texte plutôt que bavarder trop longuement sur les textes. Alors, bestiole encore à fouiner, hein ? Colline galope pour les rejoindre. L'enfant se débat entre les grosses mains poilues de l'adulte, refusant probablement de les mordre. Quinlan, vous lui faites mal. Reste en dehors de ça, mutant. Colline sent sa main se refermer en poing, là où une gifle ne suffit plus. Quinlan continue de tirer sur le bras de la gamine. « Elles sont où tes copines, hein? Qu'est-ce que vous avez encore volé, Quinlan ?» Colline a crié sèchement. Cette fois, l'homme cesse. Il lève la tête vers elle, la défiant de s'approcher. « Allez-y, frappez-moi, vous verrez qui c'est le chef. » Des portes s'ouvrent dans le couloir. La boulangère sort de son échoppe. Sa graisse étriquée dans un chemisier de petit. Quinlan se retourne. C'est cette peste qu'on vient de retrouver en train de fouiller chez Fibou. Ah oui, hein? Et après on vient se plaindre qu'on nous cambriole? La boulangère a grogné d'une voix sereine, presque mielleuse. Quinlan cligne des yeux, relâche son étreinte, la gamine détale. La boulangère ronchonne, rentre dans son antre, se fond dans les ténèbres. Quinlan pointe un doigt vers Colline. Vous n'êtes pas de chez nous! Je savais pas que les communistes étaient xénophobes. Il devient tout rouge. Voilà, portrait d'un sale type. Portrait d'un des personnages qu'on croise dans ce roman qui se passe à Marseille, dans un lieu très précis qui est la cité radieuse de Le Corbusier. Vous allez nous en dire un mot. Et puis, mutant, je pense qu'on peut qualifier l'insulte que le personnage renvoie à Colline d'insulte transphobe, clairement. Sabrina Calvo, cette petite scène qu'en dit beaucoup sur le type progressiste qui a mal tourné, qui est devenu transphobe, on imagine aussi homophobe, et odieux avec les enfants. Raciste, enfin la totale.
Oui, en fait, à cette époque-là, donc, je vivais au Corbusier, en résidente, on va dire, pas artistique, mais invitée. Et le Corbusier, qui est donc un bâtiment qu'on appelle la Cité Radieuse, ou la Cité du Fada, à Marseille, est un environnement clos qui, quand on le regarde d'assez loin, peut esquisser en fait, la réalité de Marseille dans un espace très réduit. Et donc on a toute l'histoire et on a toutes les couches de la population marseillaise entassées là-dedans, dans une proximité extrêmement troublante à première vue. C'est donc à Phalanstère, c'est un endroit où on est censé vivre en autonomie comme ça. Et les rites et de la société qui se sont mis en place là ont évolué avec la société externe, mais en même temps toujours avec un temps de retard. Et donc du coup, moi quand je suis allé là-bas, donc c'était juste avant ma transition, j'avais déjà une lecture de la xénophobie à l'intérieur même du bâtiment, où avant même d'être marseillaise ou française ou quoi que ce soit, on n'était pas du bâtiment. Et c'était très intéressant parce que, du coup, des gens qui, depuis des années, avaient été taxés de progressistes, c'était à la base c'était un bâtiment ouvrier pour les ouvriers, hein, le Corbusier, qui s'est transformé progressivement en espèce de cellule de nouvelle bourgeoisie, on va dire. Comment est-ce qu'on a pu voir toutes ces idées d'ouverture à l'extérieur et toutes ces idées de générosité et d'hospitalité devenir finalement des problèmes à l'insularité, et c'est réellement devenu un peuple insulaire. Et du coup, ce qui était jadis des permanences communistes à tous les étages sont devenus des espèces de bastions du Front National. Et le bâtiment entier a commencé à shifter, mais du coup il a shifté de manière très étrange, c'est-à-dire que les gens se disaient toujours de gauche, mais devenaient de plus en plus de droite, et les gens de droite devenaient de plus en plus de gauche, tout en se revendiquant de droite. Et moi j'étais au milieu là-dedans, et j'amenais des théories, et j'amenais des postulats de l'extérieur, à la fois sur la science-fiction, sur la fantastique et sur le genre, qui n'avaient pas lieu d'être, en fait, qui n'avaient pas lieu de résidence pour le coup. Et ce témoignage, cette petite chose, qui est ce personnage de Greenland qui se fait passer pour un communiste et qui est en fait un réactionnaire de première rang, ce qui ne veut pas dire que certains communistes ne peuvent pas être réactionnaires, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, lui, il est vraiment sous couvert, il y a ce vernis-là. Moi, j'ai eu ce rapport-là avec des gens qui ne comprenaient pas, parce que du coup, moi, je suis rentré dans cette insularité et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir m'accomplir, je vais pouvoir être moi-même et devenir une autre personne. Un peu comme les personnes trans parfois changent de pays pour pouvoir se vivre dans le genre qu'ils ont choisi ou qu'ils sont depuis toujours et pour pouvoir effacer le reste. Et pour moi, c'était une espèce de simulation comme ça de cette existence et qui n'a pas du tout marché. Parce que bah, du coup, j'étais vachement plus exposé parce que j'étais déjà étrangère. J'étais non seulement étrangère à mon corps, mais en plus étrangère à cette société-là. Quoi. Et du coup, bah, je me suis fondu dans le bâtiment, et c'est le bâtiment qui est devenu mon corps, et c'est ce que raconte cette différence. Quoi. C'est comment est-ce que finalement, on se structure comme ça, fractal.
Est-ce que c'est aussi, Sabrina, pour une autrice, une façon de parler de soi en parlant de choses plus universelles?
Moi, j'ai pas la prétention du tout d'atteindre l'université. C'est un mot que j'aime pas beaucoup, en fait, parce que justement, aujourd'hui, les gens qui parlent de féminisme universel ou d'universalisme sont en fait des gens qui n'ont pas forcément de bonnes intentions sur la société. Moi, j'ai toujours tendance à partir de moi-même, parce que c'est la chose que je connais le mieux, parce que du coup, on parle des choses qu'on connaît, enfin, quand on écrit, j'imagine, ou qu'on suppose. Et ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas capable de m'ouvrir à l'autre, de me mettre dans l'autre. Mais si je n'ai pas un cœur vivant, une source vivante en poétique, on va dire, de ce motif très important au cœur de tout mon livre, pour moi, ça ne vaut pas le coup d'écrire, en fait. Donc à partir du moment où je ne suis pas en jeu, moi, ni en termes d'évolution personnelle, ni en termes de placement dans la société, ou de point de vue important sur quelques questions que ce soit métaphysique, que ce soit morale, tout ça, pour moi, ça ne vaut pas le coup d'écrire, en fait. Et moi, j'ai grandi avec mes livres, et tous mes livres, finalement, sont des échos de ce que j'ai pu traverser, des endroits où j'ai pu vivre, des gens que j'ai pu rencontrer, qui sont transformés comme ça, dans ma matière, à moi. Et parfois, des gens s'y retrouvent, mais parfois, non aussi, parce que quelque part, c'est l'altérité. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas énormément de succès, c'est parce que peut-être j'arrive pas à atteindre cette espèce de point critique qui fait que beaucoup de gens vont se retrouver dans ce que j'écris, c'est peut-être un peu trop l'altérité, justement.
Sam Tulliner avec La Cité de l'Or, vous nous parlez dans un futur à peu près 2 siècles, de moins, vous nous parlez de réchauffement climatique, vous nous parlez d'après la catastrophe, vous nous parlez d'une ville flottante où la démocratie est quand même relativement à mal puisque les privilégiés ne sont même plus identifiables. Ils dirigent, mais on ne sait pas qui c'est. Suprême position des oligarques, on ne peut même pas les identifier. Et puis évidemment, c'est pour ça que vous êtes sur cette table ronde, la question de la diversité, je reviendrai d'ailleurs sur cette formule et toutes les réticences et les critiques qu'on peut lui apporter, mais il fallait quand même une amorce et une annonce. Donc on va en parler. Petit extrait là aussi. Les individus de ton espèce ne sont pas les bienvenus ici. Tu es une abomination, une profanation de l'être humain tel que le Seigneur l'a créé, à son image. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a fait différents des animaux. Ton lien avec cette créature sauvage et enchaînée ici-bas est un péché, et c'est ce péché qui a valu à ton peuple d'être anéanti. Au mot d'abomination, la proie se meut pour la première fois depuis l'arrivée de la troupe. Elle soulève l'arme qui gisait à son côté et la brandit des deux mains, une lance plus grande qu'elle, dont la hampe est en ivoire de morse et la lame légèrement incurvée de fer martelé, peut-être tirée d'une des côtes de la plus colossale des baleines. L'arme est surmontée d'une lame, semblable à un croissant de lune de travers, plus épaisse à la base qu'au sommet. Le tranchant est rissé de crochets et d'arguillons. Quelques journalistes prennent des photos, d'autres filment toute la scène. Pourquoi es-tu venu à Quenag ? Quelqu'un lance un tuyau, non sans force. Elle, son mouvement est délié, si subtil que certains ne le perçoivent même pas. Inclinaison infime de la lance pour dévier le projectile, sans pour autant risquer d'abîmer sa lame. L'effet sur la meute est frappant, immédiat. Des bouches baissent, des pieds s'agitent. Pour la première fois, le courage collectif de cette horde violente se délite un peu. Ils ne sont pas invincibles, leur proie n'est pas impuissante. La chef de meute réagit à l'inverse. Ou est-ce leur peur qui la rend plus courageuse ? Elle bombe le torse, elle avance à portée désormais de la lance. « Tu n'es pas la bienvenue ici, siffle-t-elle. Elle ne comprend pas ce que tu dis, hurle une voix. Tu sais bien qu'ils ont peur des technologies modernes, elle n'a pas d'implant. » À ces mots, la femme alors éclate de rire. Cela aussi fait sursauter la troupe, si surprise qu'aucun de ses membres ou presque ne remarque la lance qui frappe. C'est avec quelques millièmes de seconde de retard que le hurlement de leur meneuse les avertit du malheur. Sa main droite est à terre, baptisée par une cascade de sang artériel, l'odeur fait rougir le ce blanc. « Chopez-la !» crie une voix. La troupe se rapproche de sa proie. Leur meneuse manchote ses cartes vacillantes vers l'autre extrémité de la plateforme. Tuyaux et chaînes tournoient dans les airs. On s'appuie sur le bouton pause, on zoome, on prend en ralenti pour détailler les mouvements du balai. Deux hommes s'élancent vers la proie, côte à côte, si proches qu'un seul coup de lance suffit à les décapiter tous les deux. Une assaillante accroupie apparaît sur le côté, les frappée de plein fouet par un coup de pied qui la renverse. Le mouvement de lance qui a coûté sa tête aux deux hommes, leur tête aux deux hommes, s'achève dans la grâce. Déjà, alors qu'à l'ancienne ramène vers elle son arme, les deux mains au milieu du manche et la projette en arrière, frappant d'un geste expert la cage thoracique d'un assaillant qui a surgi dans son dos. Des os se brisent et déchirent de le pointe nouvelle des organes. Ça commence mal, mais finalement ça finit bien, ça me génère.
First of all, everything sounds better in French.
Do you want me to translate that?
Mais bon, avant tout, je voudrais juste préciser que tout sonne mieux en français de toute façon.
You know, I think that it's important to have happy endings, but it's also important to have, you know, just endings. And that often a happy ending can feel false because that's not how reality goes. Even when there's happiness, there's also unhappiness or bloodshed or violence or sadness. So even if fiction can't always give us a happy ending, I think it has the responsibility to give us a just ending or a feeling that there is justice.
Oui, je crois que c'est effectivement important que les histoires aient un dénouement heureux. Mais ce qui importe plus, selon moi, c'est que la fin soit plutôt juste. Parce qu'on voit beaucoup de fins, justement, heureuses, de dénouements heureux, qui finalement sonnent faux, qui ne sont pas en miroir, en phase avec la réalité. Parce qu'on peut voir, justement, beaucoup de bonheur à l'écran, enfin, dans l'action, mais... il a fallu beaucoup d'effusions de sang, beaucoup de tristesse, de noirceur pour en arriver là. Donc pour moi, ce qui compte, c'est qu'il y a un sentiment de justice à la fin.
In real life, you know, we suffer for no reason. Bad things happen to good people. Good things happen to bad people. I like to try to imagine a world where, you know, your suffering has meaning, where bad things, you know, the guilty are punished. That doesn't happen nearly enough in real life.
Oui, donc dans la vraie vie, les gens souffrent souvent sans raison. Il y a des gens vraiment très très bien à qui il arrive des événements très très malheureux, et l'inverse. Beaucoup de souffrances qui n'ont aucun sens. Et donc moi, ben, j'essaye et j'aimerais voilà, recréer dans mon œuvre un monde où justement la souffrance ne soit pas en vain.
Autre petit extrait pour approfondir notre sujet. Putain, mais dégage, hurle un plus jeune messager qui déboulait à l'instant sur la glisse. Première réaction de fille, bon Dieu, ce gamin, t'as croqué, suivi d'un. Mais non, c'est une fille, puis le Seigneur, je n'ai aucune idée de son identité sexuelle. Ce qui déboucha sur diverses considérations, tout intérieures, sur la complexité des genres dans la jeunesse contemporaine quanaskienne. Il était encore plongé dans la méditation, longtemps après le passage du gamin, perdu dans la brume verte des lampadaires au méthane sodium lorsque sa mâchoire tinta. Appel inconnu, articula l'implant. Un appareil de la taille d'une puce inséré dans l'angle de sa mâchoire comme ceux des réfugiés des dernières vagues, hormis les plus pauvres. Un tout en un micro-récepteur guidant le son jusqu'à son oreille et enregistrant les sons émanant de sa bouche. Le couteau logiciel de son écran fil reste. Ted Jackson, 25 ans, d'ingénieur spatial, lignée nord-américaine, homo, célibataire, pas de contact antérieur, pas d'alerte aux messages commerciaux non sollicités. Homo, célibataire, 25 ans, pas mal ça. Pas mal, ça me dit l'air. C'est important de mettre dans un roman des personnages divers, et y compris des personnages qui ne sont pas universels, en tout cas au sens où l'entendent les mâles blancs hétérosexuels, c'est-à-dire mâles blancs hétérosexuels, c'est-à-dire qu'en fait la diversité c'est les autres, alors que peut-être le regard d'un écrivain qui est membre d'une minorité, voire de plusieurs, est un regard peut-être plus universel parce que lui peut comprendre, enfin j'espère, l'existence de minorités, c'est-à-dire que même la majorité est une grosse minorité. Est-ce que c'est pas ça quelque part que disent aussi la diversité de vos personnages, ça m'énerve.
Yeah, I think that for me, what I'm writing is just reality. It's not anything special. I'm not going out of my way to create create a world that isn't real, right? That there, in reality, people are from many different backgrounds. They have many different expressions of gender and sexual identity and race. And so, for me, I'm just trying to, present a world that is as beautiful and complex and diverse as the one we live in. But I also think it is really important to tell stories that are, not something that you hear all the time. As a young person coming of age as a gay man, I didn't see stories about gay men, and those are important, and those stories can be really different. I mean, there are things that are universal about all of us, but then there are things that are particular about us, and those stories don't always get told.
Oui, alors moi j'essaye d'écrire justement à propos de la réalité, vraiment je suis pas en train d'essayer de tout tordre, de tout mettre sans dessus-dessous pour créer un monde qui soit pas du tout réaliste, même si j'écris de la littérature de l'imaginaire. J'essaye, oui, par contre, dans cette réalité que je veux relater, d'insérer, de montrer des personnages qui viennent de milieux différents, qui ont des expériences de vie différentes, qui il y a des... Ils peuvent être de race, de genre, d'identité différentes. Moi, j'essaye de présenter un monde tout en complexité, tout en diversité. Et puis, je trouve aussi, ce qui m'importe, un des moteurs pour moi quand j'écris, c'est de créer des histoires qui ne soient pas celles qu'on entend tous les jours, tout le temps. Moi, par exemple, j'ai grandi en tant que garçon homosexuel qui, justement, n'avait pas accès à beaucoup de livres, d'œuvres qui avaient été écrites par des homosexuels ou qui parlaient d'homosexuels. Et c'est vrai que cette idée de représentation, pour moi, est très importante.
Katie Stewart, c'est une autre forme de diversité, et je ne fais pas ici une allusion au fait que vous êtes noirs, que la majorité d'entre nous sommes blancs, c'est juste un fait qui ne sera pas vraiment le sujet de notre... À moins que vous souhaitiez intervenir sur le sujet, mais personnellement je ne considère pas qu'en soi, soit cette bonne diversité. En revanche, la vraie diversité que j'ai trouvée dans votre recueil de nouvelles, Confession d'une séancière, cette vraie diversité, c'est parfois celle de la langue, y compris des mots que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas, et qu'il a fallu que je reconstitue dans le contexte, parce qu'il y a quelques mots de créole, c'est comme ça qu'on formule, je pense. Voilà. Et aussi un univers légendaire, évidemment, que nous ne connaissons pas, et qui n'est pas le même. C'est une autre France, quelque part, qu'on peut entendre dans les nouvelles de Katie Stewart, et ça, c'est vraiment très original, et c'est un plus pour cette fantaisie urbaine que donc nous allons découvrir ensemble. Ouais, il est sorti boire, il fait ça assez souvent. Charline, ça la rend folle, tu t'en doutes. Que veux-tu? Tous les maris ne sont pas comme le tien. Ah, ça, donc il est sorti boire. C'est ce qu'il a dit, parce que c'est moins grave. On dit qu'il a une histoire avec la petite Alice, tu sais, la fille de Rosita. On le voit au bar, mais il ne va pas que là. Il part assez tôt, en fait, et il va la retrouver. Alors forcément, il rentre tard et pas toujours frais. Il est super tard, donc, vers les 3 heures, et il sent que quelqu'un le suit. Sa femme? Mais non, tu sortiras des heures pareilles, toi? Non, sûrement pas. Alors qui? Ben, il sait pas, il accélère. Il n'est pas derrière lui, accélère aussi, alors il prend peur. Il est fatigué, il ne sait pas s'il va pouvoir courir. En fait, il a tellement peur qu'il se retourne brusquement devant son coutelas. Il avait un coutelas? Oui, c'est plus sûr, apparemment, quand tu te balades la nuit, ne serait-ce que pour les serpents, tu vois. Donc il se retourne, et il se retrouve nez à nez qu'un cochon. Jeune à la gorge nouée, elle a envie de pleurer. Elle reprend un biscuit, c'est d'avoir l'air normal. Lorette continue son récit sans rien remarquer. Comme je te vois, un énorme cochon noir qui le suivait. Tu vas me dire que les cochons s'adorent aussi à cette heure-là, tu as raison. Le truc, c'est que le cochon n'était pas un cochon, c'était un mofoisé. Un quoi? Un mofoisé. Des gens qui changent en animaux la nuit pour emmerder les autres. Alors vous en avez beaucoup rencontré, Katie Stewart à la Martinique, de mofoisé?
Alors c'est possible, parce qu'effectivement, il ne s'annonce pas comme tel. Donc quand on croise un animal, on ne sait pas si c'est quelqu'un ou si c'est un vrai animal. Là-dessus, en fait, cette exploration que je fais dans les confusions du séancien, c'est vraiment un retour sur des souvenirs. Donc c'est des souvenirs d'histoires que me racontait ma grand-mère quand j'étais petite. Et c'est aussi des souvenirs de ce que j'appelle l'envers de la carte postale. Quand on dit « je viens de la Martinique », ah, tout le monde a des souvenirs de le Med, la plage, les cocotiers, etc. Ça n'a pas du tout été mon vécu. J'ai été coupée d'une bonne partie de ce qui se faisait parce que j'étais dans une confession religieuse. J'étais adventiste du septième jour, donc absolument coupée de ce qui se passait. Et avec une énorme curiosité pour toutes ces choses un peu étranges qui ressemblaient à ce qu'on nous donnait de la Bible et des choses comme ça, mais qui n'étaient pas tout à fait aussi claires, pas aussi simples, bien le mal. C'était un tout petit peu plus compliqué. Et puis ça nous donnait un regard un petit peu particulier sur les voisins. Là, cette histoire du cochon noir qui n'est pas un cochon noir qui suit quelqu'un, ça vient d'un souvenir réel. C'est ma grand-mère un jour qui racontait une confidence qui lui a été faite par une voisine. Et donc effectivement, quand on voyait son mari, on regardait le monsieur qui se transforme en cochon la nuit, quoi. Donc, et quand on est gamin et que on nous donne ça comme quelque chose de tout à fait réel, il n'y a aucune raison d'en douter.
C'est vrai que quand on lit sans connaître ce contexte et les histoires auxquelles vous faites allusion, Katie Stewart, nous on verrait ça, un homme qui se transforme en cochon, la nuit ou le jour, ça ne nous surprendrait pas, quelque part on en croise malheureusement. Mais avec ce recul et cette culture différente, c'est vrai qu'on a un autre regard, et on se dit peut-être que finalement, tous ces sales types, c'est des mofoisés.
Peut-être que c'est des vrais cochons.
Peut-être aussi. Charlotte Bousquet, alors jusque-là, il y avait des gens bien, cette tribune, Sabrina Calvo l'a très bien dit clairement, elle est transgenre, Sam Jubilaire ne se cache pas d'hétérosexuel, que l'histoire me vient des Antilles.
J'essaie de cacher que je suis noire, mais ça ne marche pas.
Bon, j'avais rien dit, j'espérais que ça passerait inaperçu. On arrive à Charlotte Bousquet, alors j'ai quand même pas pris un homme, parce que là, ça aurait été de la provocation, un homme blanc, hétéro, on fera ça dans plein d'autres débats, mais là, j'ai choisi une femme, mais néanmoins hétérosexuelle. Et pourtant, vous nous parlez aussi de différences, et souvent dans les romans, que ça soit d'ailleurs de l'imaginaire, ou que ça soit de la littérature générale, du roman graphique, y compris. Récemment, vous avez abordé la question d'une transition d'une jeune fille, qui ne l'a pas toujours été, ou du moins qui ne s'est pas toujours présentée comme telle, dans son lycée. Une première étape où ça se passe pas très bien, une seconde où ça se passe mieux, donc on découvre aussi la réalité des choses. Et alors que vous n'êtes pas directement concerné vous-même, vous avez été félicité par plusieurs personnes concernées qui s'y sont reconnues. Pour une autrice, je pense que c'est un beau compliment. Donc, c'est avec ce patron-là, pour celles qui diraient, mais en quoi est-elle légitime? Bien sûr que les personnes concernées sont les plus légitimes pour parler de leur situation, mais rien n'empêche, à partir du moment où ils le font avec talent et volonté de dire, avec sérieux, ils n'ont pas d'assainir leur certitude, eh bien, on peut ne pas être concerné. Et Madame Bovary, c'était lui, vous savez, la célèbre phrase sur Flaubert, je crois qu'un écrivain qui réellement s'intéresse à ses personnages est capable d'en décrire des personnages très différents de lui, sinon il faut faire autre chose que de la fiction. Petit extrait, il s'agit de Chara, donc le premier tome, puisque ça sera un diptyque, les masques d'Ars Kila, je le prononce mal.
Azarkila.
D'accord, les masques d'Azarkila. Je précise que ce roman a été écrit grâce à une bourse qui a été donnée par la DRAC, la région Grand Est, le CNL, c'est le livre, sur proposition des Imaginales. Donc, aider les auteurs, ça passe aussi parfois par des bourses d'écriture. Et c'est ce qui a donné envie à Charlotte, alors que le contrat moral était d'en faire un. C'est de nous faire un diptyque, quel beau cadeau, Charlotte. Alors, petit extrait. Tu étais mutilé, Arcane, dans ta chair et dans ton âme, reprit Échette. Tu incarnais Terre d'Arry. Cette harmonie, tu ne la retrouveras pas, pas ici, pas maintenant. Mais tu n'es pas vide. Tu es ici pour ça, pour avancer sur un nouveau chemin. Et au terme de ton voyage, peut-être retrouver ce que tu as perdu. J'ai peur. J'ai grandi avec la certitude de ma destinée, confiant enfin la rescapée, les yeux perdus dans l'obscurité. J'étais un enfant sacré, parce que j'étais à la fois garçon et fille. Parce qu'il s'agissait pour les miens, comme tu l'as deviné, d'une manifestation d'équilibre. Mes parents étaient fiers de moi, mon frère et ma sœur n'en concevaient aucune jalousie, car petite, je n'avais pas le droit de vagabonder dans la montagne, ni d'accompagner comme eux les bergers de Riga dans les hauts plateaux qui dominaient notre village. J'étais trop précieuse pour que l'on m'autorise à prendre des risques inconsidérés. On n'en dira pas plus, parce que sinon ce serait révélé la raison un peu de l'émotion du personnage, de ce qui s'est passé dans le roman. Mais vous présentez un personnage qu'on pourrait qualifier d'intersexe, Charles Bousquet. Alors pourquoi ce personnage intersexe dans votre roman, au-delà du fait que vous aviez peut-être envie d'aborder un sujet qu'on aborde depuis peu, puisque comme ne le savent peut-être pas les lecteurs et les lectrices ici présents, alors que l'Allemagne l'a dorénavant interdit, peut-être que son passé lui amène à être plus vigilant sur le respect des minorités, la France, elle, continue à mutiler des enfants intersexes. Parfois, la littérature peut aussi rappeler ces questions-là. Charlotte Bousquet.
Il y a plusieurs raisons. La première, je dirais que c'est j'ai la lecture d'un roman canadien qui s'appelle Annabelle, qui est un très très beau texte, qui parle d'une personne, une jeune personne intersexe qui effectivement est mutilée à la naissance. On le perd de manière à ce qu'il soit garçon. Il grandit vraiment au fin fond du Canada, sans être jamais bien avec, dans son corps, sans être jamais bien avec lui-même, jusqu'au moment où il finit par découvrir qu'il est elle aussi. Il y a cet aspect-là, le fait que alors là, je vais passer d'un truc qui n'a rien à voir, mais dans certaines cultures, le fait d'être intersexe est plutôt un des deux. Je pense notamment à certaines tribus amérindiennes. Donc là, c'est vraiment directement l'histoire d'Arcane est vraiment directement inspirée de ça. Et puis, quelque chose qui, Stéphanie dira que c'est mon côté indélo qui parle, mais depuis que je suis adolescente, je suis absolument fascinée par le mythe de l'androgynie, le terme Stéphane, qui explique qu'il y avait trois sortes de personnes. Des personnes qui étaient des êtres doubles, à la fois hommes et femmes, à la fois femmes et femmes, et à la fois hommes et hommes. Et qu'en fait, c'est une déchirure qui fait qu'on est devenu complètement incomplet et qu'on part en quête de l'autre. Et l'histoire d'Arcane, c'est ça. Alors, cet autre, comme j'ai pas encore écrit le tome 2, je sais pas quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, c'était aussi pour écrire cette histoire-là. C'est vraiment un mélange, je dirais, de ces trois aspects.
David Calvo, toujours sur la colline, un autre petit extrait. Alors, bestiole, encore à fouiner, hein ? Colline galope pour les rejoindre. Ah, ben j'ai déjà lu. Ah oui, j'ai déjà lu. C'est pas le passage que je cherchais. Voilà. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré, Colline ? Non, je ne crois pas. Votre voix m'est familière. Vous devez vous tromper. Ça m'arrive. Une pause. Quel est le sujet de votre livre ? Les fantômes. Ah, vous aussi, vous pensez que le corps lui est hanté ? Moi aussi. Serge regarde Flo, malin. Avec Flo, vous êtes bien tombé. Mais si vous voulez mon avis, je considère que tout ça, c'est du flan. Ce bâtiment est rationnel. Il a été érigé sur les fondements matérialistes. Il est très difficile de lui donner une profondeur, comment dire, mystique. Pourtant, ici, on attire les gens les plus ouverts d'esprit, parfois même des sorcières. Ah, on amène des sorcières à Marseille, Sabrina Calvo.
Non, c'est bien, les sorcières de Marseille. En plus, c'est un sujet qui est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, il y a une convergence de la sorcière, du mythe, de l'image de la sorcière et de la personne du féminisme et du transféminisme d'ailleurs. C'est très intéressant de voir à quel point les deux choses sont en train de se révéler. D'ailleurs, même à un niveau marketing, c'est étonnant. On commence à avoir Sephora, par exemple, qui fait pas que sortir maintenant. J'ai vu ça, oui, c'est assez déstabilisant. Parce que de quoi on parle quand on parle de sorcellerie aujourd'hui? Alors à Marseille, c'est particulier. Marseille, c'est une ville extrêmement rationnelle. On a les mythes. Moi, j'ai eu beaucoup de mal justement à dégager l'essence mythique de Marseille. Alors évidemment, on a tout un tas de trucs liés à l'origine sacrée grecque de la ville, aux racines celtes aussi, hein, parce que les Celtes, le peuple qui était là, c'était des Celtes augures. Il y avait toute cette espèce de matrice-là, mais c'est des choses qui sont extrêmement mises à distance, et le christianisme a vraiment complètement assaini, on va dire, la texture magique de cet endroit. Et c'est très très difficile d'excaver ça, en fait. Hein. Et moi, je n'ai pas rencontré de sorcière, littéralement, j'en ai pas vu. Par contre, ce que j'ai pu faire, c'est identifier un certain nombre de traits saillants, notamment chez les couturières, par exemple, ou sur les fabricants de poupées, ou sur des choses comme ça, qui à Marseille, les fabricants de santons, par exemple, en Provence. C'est très intéressant de voir finalement que le craft qui passe là-dedans, c'est un craft qui peut s'assimiler à la sorcellerie. Et il y a toujours une expression très féminine, comme ça, d'une force, qui n'est pas une force essentialiste, hein, je ne parle pas de ça, je ne dis pas que c'est quelque chose d'un principe féminin ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui a été étouffé, c'est quelque chose qui, à la base, était même enseigné à tous les genres, d'ailleurs, de la société, et qui est aujourd'hui, regardé avec beaucoup d'admiration, mais qui est tenu à distance énormément, parce que les gens sont extrêmement, extrêmement superstitieux encore. Et d'ailleurs, la Provence est un endroit qui vénère la Vierge Marie. Quand c'est pas Marie-Madeleine, mais et d'ailleurs c'est elle qui est mise devant, hein, c'est une figure qui est mise devant, etc. C'est là où on est au plus profond de choses qui sont très 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 intéressantes à creuser et essayer de trouver la racine. Moi je sais que j'ai eu des soucis avec la population marseillaise sur justement ces principes de fantastique, de la lecture fantastique de l'univers, la lecture poétique aussi de l'univers. Et quand on regarde un petit peu l'histoire de la poésie provençale avec les Philippe Brige ou des gens comme ça qui ont essayé d'exprimer une forme d'invisible avec la fée Estérel, même ça, il y a un regard derrière d'ironie, il y a un regard de sans par les hommes, pas sérieux, qui dit qu'en fait, non, on mérite mieux que ça. Et voilà. Et donc, moi aussi, j'ai eu du mal à trouver ma place quelque part là-dedans, parce que c'est une société qui est très, très exclusive, la société marseillaise. C'était très dur pour moi de vivre à tous les niveaux, en fait, mon expérience d'existence auprès de ces gens. Encore aujourd'hui.
Et c'est ce que le livre aussi donne à entendre et à lire. On en lira un dernier petit extrait tout à l'heure. Disait dans le titre de cette table ronde, vous imaginez à Épinal, la diversité, c'est naturel. Alors, déjà, c'est une affirmation. Et c'est un rappel à ceux qui n'ont pas encore compris que ici, tout le monde est bienvenu. À partir du moment où il vient avec l'amour des livres, des écrivains, l'envie de partager, c'est ouvert à tout le monde sans aucune restriction, distinction, étiquette et quoi que ce soit. Mais c'était aussi une interrogation, parce que si on éprouve le besoin d'en parler, de parler de diversité, c'est peut-être parce que finalement, ce n'est pas si naturel que ça encore dans toutes les têtes et dans toutes les sociétés. Est-ce qu'on n'est pas là, et c'est le problème aussi des écrivains, qui, je ne dis pas à bord de ces sujets, je dis présente des personnages différents, sorte de ce que longtemps a régné dans les lettres, c'est-à-dire le fait qu'on présentait aux lecteurs, au public, un monde qui n'existe pas, y compris dans les romans réalistes. C'est-à-dire un monde qui est universellement blanc, plutôt mâle, uniquement hétérosexuel, et qui ne fait partie d'aucune minorité. Or, ça, c'est une fiction. Et quelque part, dans les livres que vous avez, là, ma question va s'adresser à Sam Miller, est-ce que... l'écrivain n'est pas entre l'envie de faire avancer les choses, de présenter des personnages différents, et le fait de ne pas non plus faire de ce qui est une minorité un sujet. En gros, être homosexuel pour un personnage, c'est être homosexuel. C'est pas parler de l'homosexualité. Est-ce que c'est comme ça, comme écrivain, que vous l'entendez, Sam Miller?
Oh.
It's a great question, and this point of diversity is natural. Is diversity natural, right? Because diversity is a discussion around difference, and difference is socially constructed. And so in some societies, as was mentioned, people who are intersex or who present gender differently are valued, and in other societies and other times they are not. And so to me, it's important to imagine better worlds and to talk about a future where some things won't be a problem anymore. For example, I have a gender non-binary character, and the only time they have any problem is when they meet American refugees, because this is a post-American future. And so to imagine that some things can get better.
Oui, je trouve que c'est vraiment une très très bonne question. Est-ce que la diversité est si naturelle que ça? Parce que tout ça, ça soulève une discussion sur la différence. Et la différence, c'est quelque chose qui est de toute façon socialement, c'est un construit social. Et donc il y a des gens qui, comme vous le disiez précédemment, dans certaines cultures, qui sont intersexes ou qui sont homosexuels, etc. Et ça, c'est reconnu, c'est valorisé. Dans d'autres cultures, les cultures occidentales, par exemple, ça n'est pas forcément valorisé pour l'instant. Et donc, moi, j'essaie justement de présenter un futur dont je rêve, dans lequel ces différences seraient peut-être abolies. Et d'ailleurs, j'ai dans mon roman un personnage qui est justement... qui est non-binaire, au niveau de son genre. Il est à la fois femme et homme. Il s'exprime en tant que il et elle. Quand il s'exprime, c'est au pluriel. Et les seuls moments où il se sent un peu discriminé, où on le montre, il ou elle d'ailleurs se sent discriminé, ce personnage, c'est quand il rencontre justement des réfugiés américains, c'est-à-dire des gens, parce qu'on est dans un futur... post-apocalyptique, il n'y a que les gens qui existaient dans notre monde maintenant qui peuvent voir sa différence comme gênante.
And I've worked for many years as a community organizer and as an activist, and so a lot of my work is around organizing protests and fighting for changes, and so in my fiction as in my life, I want to talk about the problems, but I also want to talk about solutions and giving people hope and the idea that people can fight back and make changes. So I don't really have an answer, I just have the question, which is, I want to talk about the positivity and the hope of a better future, but also about the problems of the now.
Et alors j'ai beaucoup travaillé en tant que médiateur social dans des quartiers à New York, et aussi c'était un métier très très militant. J'organisais des manifestations, j'aidais justement, je donnais des clés aux gens, aux citoyens, pour pouvoir lutter et pour pouvoir essayer de changer les choses. Et donc dans mon œuvre fictionnelle, tout comme dans ma vie, j'ai envie justement de lutter, et puis j'ai envie de montrer du doigt les problèmes qu'il faudrait éradiquer, mais surtout les solutions vers lesquelles il faut tendre. Parce que les gens ont le pouvoir de faire changer les choses et de se battre, de répondre quand ils sont oppressés. Et donc moi j'aimerais en tout cas passer ce message plutôt positif, optimiste, et puis alerter les gens sur les dangers de la banalisation.
Katie Stewart, dans l'utilisation des contes, des légendes, de toute une culture antillaise, est-ce que pour vous, ça nourrit l'ensemble de vos projets d'écriture, ou est-ce que c'est simplement une étape, ce recueil? Est-ce qu'en un mot, cette différence-là, vous allez en faire quelque chose de régulier dans votre œuvre, ou non, c'était dans ce recueil-là, dans certains contextes?
Alors, je ne sais pas. Au départ, c'était quelque chose d'un peu accidentel. J'ai toujours 50 projets à peu près en cours. Ça, c'était là, c'était en train de grandir, et puis c'était le moment. à la fois parce que j'avais la disponibilité d'esprit pour le faire et parce que j'avais aussi avancé dans mon rapport aux îles. J'ai passé plus de 15 ans à ne pas vouloir en entendre parler parce que c'est un endroit où j'ai vécu agression, enfermement et des choses assez désagréables. Donc j'ai eu besoin de soigner mon traumatisme tranquillement avant de pouvoir jeter un œil sur ce lieu-là. Une fois que je l'ai fait, je me pose vraiment des questions parce qu'il y a une différence entre ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a besoin de faire, ce qu'on a besoin de raconter et la manière dont c'est reçu. Et je suis, je reste perplexe. C'est-à-dire que je suis contente du travail que j'ai fait avec l'édition sur ce texte-là. Je suis contente de donner à voir des facettes assez méconnues de la culture française au sens large. Mais je vis assez mal d'être simplement quelque chose d'exotique, d'être voilà, d'avoir un message qu'on me colle qui n'est pas du tout le mien. Je continue à écrire. On m'a sorti récemment, ben, tous tes personnages sont noirs. Ben non, en fait, voilà, des choses un peu qu'on vous balance comme ça et qui font que j'ai beau avoir une pensée sur le fait d'être différent. Enfin, je crois que je cumule hein, de toute façon. Donc au bout d'un moment, il faut bien qu'on se positionne d'une manière ou d'une autre. Mais ça n'est pas le cœur de mon existence, ça n'est pas du tout le cœur de mon travail d'écriture. La question de l'identité, pour moi, c'est beaucoup plus large que ce qui se voit immédiatement à l'extérieur. Et d'avoir écrit quelque chose sur les Antilles, c'est quelque chose, pour moi, c'est ambigu. C'est-à-dire que je suis contente de l'avoir fait. Pour moi, je suis contente de l'avoir fait aussi pour des lecteurs qui trouvent quelque chose. Mais j'ai un petit peu peur de cet enfermement, ce réflexe qu'on a en France de coller quelque chose et de dire tiens, elle est enfin dans la case où on l'attendait et donc on va l'attendre là. Et j'ai plein d'autres idées de légendes que j'ai envie d'explorer. Ça se nourrit aussi de ce que je fais. J'étudie la psychologie, donc il y a des tas de choses qui reviennent. Et qui sont pour moi très intéressantes à fouiller. Et je pense que je vais laisser un peu de temps et laisser un peu de temps aux gens aussi de voir que ce que j'étais avant, je continue de l'être et que ce que je faisais avant, je continue de le faire et que bah, les cases, j'y rentre, j'y sors comme je veux.
Dans la Cérencière, il y a un petit excerpt qui dit « La demeure du papa de l'eau fut nommée la mer qui devint ensuite la mer. » La mer, l'amertume, la mer, évidemment, M-E-R. Cette légende de Papa de l'eau, je l'ai retrouvée dans d'autres textes de vous, Katie Stewart. C'est bizarre, ça m'a fait penser non pas à un imaginaire entier que je pourrais moi-même imaginer, sans doute avec des idées reçues. Et je pense que ce texte permet justement de nous en approcher de façon plus sérieuse et mieux informée. Mais ça m'a fait penser en fait aux légendes grecques du dieu Poséidon, tout simplement. Est-ce qu'il y a un rapport, ou est-ce que c'est moi qui vois justement un lien entre ces légendes antillaises, de cette sorte de dieu de la mer, et puis les dieux grecs traditionnels d'il y a 2000 années?
Alors je pense que partout où il y a la mer, il va y avoir des légendes autour de la mer. Et finalement, on est tous humains avec les mêmes questionnements, les mêmes angoisses existentielles qui traversent toute l'humanité, qui effectivement va avoir besoin de se créer des routes. Qui vont ressembler à ce qu'on a autour de nous, qui vont donner du sens à notre existence, qui vont donner du sens à ce qu'on va vivre comme un destin, parce que ben voilà, sur une île, effectivement, le vent, la mer, ce sont quand même des choses qui apparaissent comme des puissances, donc qu'il y ait des points communs entre ces légendes de là et les légendes d'autres endroits où il y a la mer, c'est une évidence, c'est même pas une coïncidence, c'est une évidence. Puis je voulais ajouter aussi par rapport à ça, c'est qu'on me prête une espèce d'érudition sur les légendes des Antilles. Donc j'ai besoin de dire à chaque fois que c'est totalement inventé. J'ai des souvenirs, j'ai des motifs qui me sont restés de quand j'étais petite, des choses que j'entendais, des choses qui étaient rapportées, déformées, et qui sont passées au filtre d'un vécu. J'ai fait des études aussi, enfin voilà, des tas de choses qu'on redigère et qu'on redonne. Donc je suis incapable de dire ce qu'il y a d'authentique dans ce que je donne à lire. Il y a des choses qui reviennent. J'ai été surprise moi-même parce qu'il y a des moments où j'ai eu besoin de refabriquer de la trame pour que ça se tienne. Ben, ça prouve probablement que je suis un être humain.
On va y réfléchir, tu vois. Nous sommes peut-être tous finalement des êtres humains. C'est cette grande révélation qu'on va avoir. Enfin, mais je voulais quand même demander là aussi à Charlotte Pousquet, qui écoutait, je voyais avec attention les interventions des trois auteurs. Ça fait quoi d'être en minorité sur cette table ronde, Charlotte Pousquet ?
Ça fait plus de différence. Je me rends compte qu'on a des thématiques communes, qu'on est effectivement avant tout des êtres humains, qu'on vit, qu'on écrit avec beaucoup de soi-même, qu'on est aussi, tu parlais d'identité, en quête d'identité. Mon roman Chara, c'est vraiment une quête d'identité plurielle, de métamorphose, de qu'est-ce qui nous fait bouger en tant que personne. Le reste finalement c'est juste des étiquettes, c'est l'écriture, le fait d'écrire dans différents genres, c'est aussi un moyen de faire avancer les choses, de faire en sorte que les gens se posent des questions. Sabrina parlait tout à l'heure d'altérité. Je dirais que j'ai un peu le même problème que toi, j'écris pas des choses lisses. Et du coup, les gens ont parfois du mal à se reconnaître dans certains personnages ou à comprendre qu'en fait, on peut écrire une fiction en étant proche de la réalité. Donc, par exemple, une belle femme battue ne va pas se réveiller un beau matin en disant « Je suis super romane et je vais casser la gueule ». Non. Elle va mettre des années et des années à sortir de galères. Et c'est ça qui est vachement, vachement intéressant dans le processus d'écriture, c'est cette création métamorphe, cette création aussi avec et pour les autres et pour soi. Et après, je ne sais pas, je dirais que pour que la table ronde soit complète, il aura fallu un mâle blanc hétérosexuel et anti-IVG, parce que c'est vachement à la mode en ce moment.
On va peut-être pas aller
chier. Il aurait monopolisé la parole. Mais après, je voulais juste dire un truc. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très très marrant, Képi, quand tu parles des étiquettes. Parce que souvent, les choses se sont un peu atténuées ces dernières années, mais dans les conférences de SF, alors pas de fantasy mais de SF, quand on invite des femmes, c'est généralement pour parler de la SF au féminin, la sexualité et la chair. Mais jamais toi. C'est pour ça.
Eh bien, pour conclure cette table ronde, d'abord merci à nos invités d'avoir ouvert des éclairages sur cette notion de diversité parfois bien discutable et parfois bien suspecte dans cette terminologie. Vous avez vu là des auteurs qui avant tout présentent des diversités de leurs histoires, des diversités de leurs personnages, la diversité de la vie et de la narration. Donc je vous propose ensuite de nous retrouver sur la ville du livre pour retrouver nos auteurs et nos autrices, ou plutôt notre auteur et nos autrices, pour ensuite procurer leur livre, tout simplement. Chara, Charlotte Pousquet, aux éditions Mnemos. Magnifique couverture, d'ailleurs, on la doit à qui, Charlotte ?
Mélanie Dumont.
Magnifiques illustrations. J'espère qu'on aura dans les années à venir l'occasion de présenter une exposition de Mélanie Nicolon aux Imaginales. J'en serais vraiment extrêmement heureuse. Elle a une force dans l'illustration et dessin, moi, qui fait mon admiration. Katie Stewart, Confession d'une séancière, des récits qu'on a commencé à approcher par quelques extraits. Vraiment une fantaisie urbaine tout à fait différente de ce qu'on a l'habitude de lire. Et c'est vraiment rafraîchissant et c'est bien écrit, avec des jolis personnages, des petits textes, et vous verrez, ça se déguste petite lampée, et c'est vraiment un joli recueil. Aux éditions Nues, Sous la colline, de Sabrina Calvo, qui est aux éditions La Volte. Il y a eu qu'on nous parle de Marcel, encore une fois, hein, La Mer. Et puis, le quatrième roman, La Cité de l'Orque, on n'y parle pas que d'identité, d'homosexualité, de diversité de genre, on y parle de plein d'autres personnages, qui n'est pas le sujet de cette table ronde, mais vous verrez, c'est un livre polyphonique extrêmement riche et qu'on voudrait, comme l'ensemble des livres de nos auteurs et de nos autrices, surtout pas ramener à une catégorisation ou à une étiquette. Ce sont avant tout des grands livres d'écrivains, c'est aux éditions Albin Michel Imaginaire. C'est des belles histoires, c'est des belles rencontres. Précipitez-vous sur la boucle du livre, ils vont se faire un plaisir de signer leurs ouvrages. Merci.